Je crois que d'abord, de côté positif, on peut dire que Dlamini Zuma a quand même tenté de faire certains changements et des réformes institutionnelles, même si c'était vraiment très, très compliqué parce que l'Union africaine, et avant l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine a un lourd passé bureaucratique, c'est 54 États, plusieurs langues, des quotas pour les différentes fonctionnaires, vraiment pas un organisme connu pour son efficacité, sa productivité. Donc, elle a essayé de faire des changements, mais je pense qu'il y a encore un long chemin devant l'Union africaine pour vraiment devenir moderne et efficace et pour pouvoir vraiment faire tout ce que les dirigeants de l'Union africaine espèrent faire. Donc, quand on a de la Dlamini Zuma venant de l'Afrique du Sud et avec sa culture de ministre où elle a eu beaucoup de succès, je pense qu'elle a quand même essayé de faire certaines réformes. Mais le plus visible, je pense, qu'on a vu sur le continent, c'était tout ce qu'elle a fait en faveur de la femme africaine, plusieurs initiatives qu'elle a lancées contre, par exemple, le mariage précoce, etc. Ça, c'était vraiment son contribution, je pense, qui, à la longue, pouvait avoir un impact sur la vie des Africains. Elle a lancé Agenda 2063,
Oui, mais
qui est aussi un. Voilà.
oui, dans le même temps, beaucoup de ses détracteurs estiment que Madame Nkosazana Dlamini Zuma a plus passé son temps à voyager hein, sur l'Afrique du Sud pour préparer sa carrière politique hein, que de s'occuper de ses fonctions au sein de l'Union africaine.
Absolument. Donc, il y avait sans aucun doute beaucoup de critiques contre elle. Une de ces critiques, c'est effectivement qu'elle a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud, qui est vrai. Elle a fait plusieurs de ses réunions ici en Afrique du Sud au lieu d'Addis-Abeba. Et là, aujourd'hui, nous sommes au courant qu'elle est candidate pour l'élection présidentielle en Afrique du Sud. Donc, quelque part, il y en a qui rapprochent à Dlamini Zuma d'être à la fois l'Union africaine, mais en même temps faire campagne chez elle à la maison. Donc ça, c'est une des accusations contre elle, qu'elle n'a pas passé assez de temps à Addis-Abeba.
Ouais, justement, ses détracteurs estiment aussi qu'elle a profité de sa présence donc au sein de la commission de l'Union africaine pour imposer beaucoup de technocrates sud-africains au secrétariat de la commission africaine. Est-ce que vous trouvez ça choquant?
Oui, je sais que c'est une rapproche. Je ne sais pas, le mot technocrate évoque quelque chose de plus ambitieux. Je pense qu'elle a plus ou moins son cabinet, elle s'est entourée des fonctionnaires, des anciens ambassadeurs sud-africains. C'est pas comme si ça aurait été peut-être souhaitable plus de nommer des gens qui venaient du privé, des technocrates. Mais bon, ceci dit, quand elle est venue au pouvoir, quand elle a pris ce poste en 2012, elle n'avait vraiment pas de soutien. Justement à cause de la façon dont elle a été élue, l'Afrique du Sud était accusée d'être vraiment trop brutale dans sa façon dont elle a mené l'élection, etc. Et vouloir imposer une cause en Dlamini Zuma. Donc elle est arrivée et déjà, il y avait très, très peu de Sud-Africains qui travaillaient dans l'Union africaine, contrairement à d'autres pays africains. Et c'est ça d'ailleurs quelque chose qu'on lui a reproché, c'est que l'Afrique du Sud n'a jamais vraiment eu beaucoup de présence à Addis-Abeba et tout d'un coup, l'Afrique du Sud va imposer donc le poste le plus important de président de la commission. Donc, elle est venue ainsi entourée d'un staff dominant sud-africain qui a été aussi beaucoup critiqué. Mais bon, c'était peut-être comme ça qu'elle sentait qu'elle pouvait faire des changements qu'elle souhaitait. Mais à la longue, ça n'a pas été très positif parce qu'en plus, mis à part son porte-parole ou le chef de son section média qui était aussi francophone, il y avait très peu de francophones autour d'elle. Et ça aussi ne jouait pas dans sa faveur.
Oui, parmi donc les points positifs hein, qu'on peut retenir de son de sa présidence, peut-être que elle a réussi quand même à instaurer dans le lexique hein, de l'Union africaine les vidéoconférences. C'est quand même un acte positif, non?
Ça c'est vrai. Ça fait partie de certains changements institutionnels. Il y a des vidéoconférences, donc ça théoriquement évite que les fonctionnaires voyagent tout le temps dans les endroits de l'Afrique pour faire des réunions, toucher des per diems très élevés, etc. Donc les vidéoconférences, il y a un EU Leadership Academy, beaucoup plus de formation des personnels de l'Union africaine. Il y a certaines initiatives comme ça. Une certaine ouverture aussi, une certaine transparence. Bon, c'est vraiment pas du tout ce qu'on aurait souhaité, mais par exemple, maintenant, on peut avoir accès aux réunions, par exemple, les réunions d'ouverture du sommet de l'Union africaine en ligne. Quelqu'un qui n'est pas sur place peut assister et regarder ça en ligne. On a vu à la fin de l'année dernière un débat avec les candidats à la poste de présidence de l'Union africaine qui était transmis en direct en ligne et dans les télévisions. Donc, bon, il y a des tout petits pas de changement vers plus de modernisation et d'efficacité, je peux dire.
Ouais. Et les historiens de l'Union africaine pourront également mettre à l'actif hein, de la présidente de la MINUSUMA l'élaboration pendant son mandat à travers des consultations populaires de ce qu'on appelle l'UIA, la plateforme programmatique ambitieuse de développement de l'Afrique pour les 50 prochaines années. Une plateforme, si je me rappelle, baptisée Agenda 2063. Est-ce que vous pensez là aussi que c'est un projet assez dynamique à mettre à l'actif hein, de la MINUSUMA?
Oui, c'est vrai que ce projet 2063 est devenu un slogan. C'est quelque chose qui a vraiment capté l'imagination. Elle a élaboré toute une longue liste d'ambitions et de choses qu'elle voulait atteindre. Donc, il y a des projets pour la prochaine 10 ans, pour 20 ans et jusqu'à 50 ans. C'est très ambitieux. Ça touche à tous les différents domaines de développement économique, gouvernance, paix et sécurité, etc. Il y en a qui disent que, en fait, bon, l'Union africaine en tant qu'institution n'a pas vraiment les capacités pour être le moteur pour tous ces changements socio-économiques, développement de l'Afrique, et que l'Union africaine doit intervenir là où il a la capacité, observer des élections ou médiation de paix, etc. Mais bon, ça, c'était son grand projet. Et même ceux qui sont candidats à succéder, on voit que dans toutes leurs déclarations, leurs manifestes pour les élections, ils parlent aussi de l'agenda 2063. Donc, c'est quelque chose qui peut-être va rester après le départ d'un Nkosazana Dlamini-Zuma. Ça sera son héritage à l'institution, je crois.
Oui, aussi on peut y ajouter l'instauration ou bien la mise en circulation des passeports électroniques uniques hein, pour l'ensemble du continent. C'était, je crois, lors du sommet de Kigali, non?
Oui, c'est quelque chose important, la libre circulation des gens à travers l'Afrique. C'est pas une idée nouvelle, c'est quelque chose, c'est même le sens même de la fondation de l'OIA et l'Union africaine, c'est plus d'unité africaine. Les passeports électroniques, le passeport africain était lancé à Kigali, comme vous dites, mais bon, c'était délivré aux chefs d'État qui, normalement, n'ont pas tous ces soucis, et je pense que
Mais selon nos informations, le passeport entrera en vigueur à partir du 17 juillet prochain, non? Vous n'avez pas appris ça?
Le passeport africain va entrer en vigueur dans quel pays?
Mais, bon, on n'a pas plein d'infos, mais je crois que j'ai parlé avec M. Jacob Eno Eben, là, qui est, le porte-parole de Zuma, qui disait que, que la mise en circulation des premiers passeports électroniques uniques pour l'ensemble du continent sera mise en vigueur dès le 17 juillet prochain. Donc, peut-être, on peut espérer. Hein.
Bon, c'est très ambitieux, parce qu'il faut dire aussi qu'un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, a des contrôles très très stricts à sa frontière, surtout envers les Africains qui viennent d'ailleurs. Donc, ce n'est pas pour demain que l'Afrique du Sud va ouvrir ses portes pour tout le reste de l'Afrique qui viennent avec son visa, parce que c'est ça l'idée, c'est que vous n'avez plus besoin de visa si vous voulez venir du Kenya jusqu'à l'Afrique du Sud ou de la Zambie au Sénégal. Donc, l'idéal, c'est là, mais que ça soit, ça devient réalité pour l'Africain moyen, bon, c'est assez complexe comme situation. C'est quelque chose je pense qu'il faut voir à long terme.
Oui. Lizello, nous continuons, nous poursuivons notre entretien parmi donc les points négatifs imputés à Dlamini Zuma pendant sa présidence à la tête donc de la Commission de l'Union africaine. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de crises sur le continent, le Mali, la Somalie, la RDC, le Soudan du Sud, la Centrafrique. On n'a pas du tout entendu la voix forte de l'Union africaine. Donc beaucoup se sont dit que Dlamini Zuma est restée silencieuse face à toutes les crises qui ont secoué et qui continuent donc de secouer le continent africain.
Non, ça c'est tout à fait vrai et ça c'est peut-être le plus grand reproche qu'on peut lui faire parce qu'elle a évité de focaliser sur d'autres projets, sur les questions des femmes, développement économique, des développements, des questions plus long terme. Et les crises brûlantes que nous voyons sur le continent, les crises post-électorales, elle a fait des déclarations, elle a ici et là, elle a voyagé au Burundi une ou deux fois, mais vraiment, elle a presque laissé ça au commissaire de paix et de sécurité, Chemin Chergui. Elle a aussi, l'Union africaine en général, a laissé beaucoup de crises être gérées par les régions, ECOWAS, l'IGAD essaye de gérer le problème de la guerre en Soudan du Sud. Donc, ça c'est vraiment là où elle aurait pu, comme ses prédécesseurs, être beaucoup, beaucoup plus présente sur le tas quand il y a des médiations, quand il y a des élections, voyager à ces pays, faire des déclarations à la presse, être présent et montre que l'Union africaine sert à quelque chose et que ce n'est pas uniquement des déclarations publiées comme ça sur un site web que personne fait attention à ça.
Oui, elle n'a pas par exemple sanctionné comme d'ailleurs les règlements de l'Union africaine le lui permettent de le faire. Elle n'a pas sanctionné des pays qui ont bafoué les règles élémentaires de démocratie en modifiant la constitution.
Bon, c'est assez complexe aussi. Bon, là, le Conseil des pays de sécurité aussi est ces 15 pays qui décident finalement quand un pays va être sanctionné. Vous vous rappelez, Burkina Faso, par exemple, quand il y avait le coup d'État, il y avait quand même ici et là les sanctions qui étaient prises. Là où les constitutions étaient changées par des référendums très douteux, ou enfin, par exemple en République du Congo, Congo-Brazzaville, il y a d'autres pays où, en Rwanda, où la constitution a été changée. Là, à chaque fois, elle disait non, mais un pays, s'il y a un référendum, et si c'est selon la constitution, l'Union africaine ne peut rien faire. Mais bien sûr, elle pouvait se montrer beaucoup plus du côté de ceux qui défendent la démocratie en Afrique et les élections libres et que les chefs d'État font 2 ou 3 mandats, mais pas 5 ou 6. Donc, là, de ce côté-là, elle s'est vraiment pas du tout exprimée.
Ouais, dernière question. On parle aussi de l'absence de marge de manœuvre de Madame Dlamini Zuma, puisque elle ne pouvait même pas remanier son cabinet de commissaires, qui, il faut le rappeler, tire leur légitimité de leur élection avalisée par le chef de l'État. Est-ce que le nouveau, ou bien le prochain, ou bien la prochaine présidente de la commission ne doit pas voir ses pouvoirs renforcés dans le domaine?
Absolument, ça c'est une très bonne question et ça c'est une des réformes que on attend du commission de Paul Kagame, qui était chargé de faire une enquête sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine, et ce rapport va être présenté au chef d'État donc à la fin du mois. Et c'est là où véritablement le président de la commission va pouvoir mener sa politique, parce que actuellement il y a un président, il y a un vice-président et il y a 8 commissaires, et chaque commissaire est nommé par donc les chefs d'État, mais le Executive Council, donc le ministre des étrangères. Donc ça ce n'est pas très logique. Si vraiment c'est elle qui choisit ou le président qui choisit ses commissaires, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus efficace. Mais ça, c'est une des idées qui sont sur la table et qui peut-être vont faire partie de ces réformes de la commission Kagame.